Cours de philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Jeudard, le 30 novembre 1988.
La dernière fois, je vous rappelais comment le vivant, l'homme, parce que c'est l'homme, pose un problème nouveau dans cette sorte de possibilité que j'ai de saisir mes opérations vitales de l'intérieur. Opération vitale, je parle. Et je saisis de l'intérieur. Je mange. Ça, l'intériorité est moins grande. Je parle, je pense, je sens. Et que il ne s'agit pas d'une introspection au sens où ce terme a repris toute sa force progressivement avec Mendel-Biron. Il s'agit d'une auto-lucidité de mon acte vital. Et de comprendre que cet acte vital, je ne le saisis pas uniquement en tant que j'en ai conscience, mais je le saisis en tant que cet acte vital est une opération existante. Le jugement d'existence n'est pas étranger à cette auto-lucidité. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de nouveau. Je ne peux pas nier. Il suffit tout simplement de réfléchir sur le fait que quand vous pensez, quand vous sentez et que vous regardez votre voisin, vous ne savez pas quand il pense. Et quand il sent, oui, vous avez l'impression qu'il réfléchit beaucoup, oui. Il doit faire des exercices de vitose, oui, oui. Il doit sentir avec une très grande intensité. Mais je ne sens rien. Sauf s'il y a un magnétisme extraordinaire sur vous, alors vous direz oui, je sens quelque chose. Mais c'est du magnétisme. Ce n'est pas une opération vitale que vous ressentez à partir de votre propre réflexion, auto-lucidité sur vos actes. Donc il y a bien quelque chose d'original. Je crois que ça, on peut tous le comprendre. Je n'insiste pas plus. Il y a des difficultés, vous les noterez, vous les direz. Ceci permet de comprendre une recherche nouvelle au plan philosophique. Et j'insiste, c'est grâce au jugement d'existence présent dans cette auto-lucidité de mes activités vitales que je peux dire que j'entre dans une partie nouvelle de la philosophie. Je ne me sers pas du microscope électronique parce que le microscope électronique n'a plus le jugement d'existence. Il me dit quelque chose d'intéressant, mais il fait une terrible abstraction dont je n'ai pas conscience. Puisque je ne peux grossir que les qualités communes, les sensibles communs. Les sensibles propres échappent à tout grossissement. Ils sont indivisibles. Les sensibles communs, au contraire, impliquent toujours la quantité. Ils sont mesurables. Ils peuvent être augmentés indéfiniment. Ça ne me gêne pas qu'ils soient grossis ou diminués, c'est pas gênant. C'est les sensibles communs, mais les sensibles propres n'en sont plus présents. Par le fait même, je ne saisis plus l'acte vital comme acte vital. Parce que, d'abord, je n'ai plus cette auto-lucidité l'instrument est tellement puissant qu'il modifie mon contact avec le réel. Et cette modification qu'il fait comme contact avec le réel n'est saisie que de l'extérieur. Je mesure le réel. Mais je ne le saisis plus de l'intérieur. Donc, d'une certaine manière, ça c'est une très grave question, puis-je distinguer encore le vivant du non-vivant ? Je pourrais peut-être le distinguer par certains points de complexité. Vous savez bien que c'est le grand principe du père Teilhard. C'est le grand principe du reste que beaucoup prennent. La différence du vivant et du non-vivant, c'est la complexité. C'est tout à fait matériel. Nous disons, nous, la différence du vivant et du non-vivant, c'est l'intériorité. C'est quand même pas tout à fait la même chose. La complexité ne vous donnera jamais l'intériorité. Ça, c'est le grand principe de Teilhard. Il faut de temps en temps lire du Teilhard quand vous êtes fatigué. Les idées, ça vous reposera. Parce que c'est beau imaginativement. Il y a des choses très belles en Teilhard. C'est une espèce de mystique apologétique. Si j'avais écrit quelque chose sur Teilhard, j'aurais posé le problème comme ça. Peut-on avoir une apologétique mystique ? Peut-on par la mystique donner des raisonnements apologétiques ? Parce qu'en réalité, si vous êtes très attentif à Teilhard, c'est ça. J'en parle ici parce que c'est la théologie du vivant, Teilhard. Et c'est intéressant. On ne peut pas ne pas connaître un peu Teilhard, parce qu'on vous interrogera beaucoup moins maintenant, mais quand même. On interroge encore sur Teilhard. Il faut donc, si vous dites « Ah, j'ai jamais lu à rien, vous interrogez. » C'est pas étonnant, vous êtes aristotélicien. Aristote nous invite à lire Teilhard. Si Aristote vivait là, il y aurait le bombardement sur Teilhard. Ça, c'est sûr, il montrerait que ça ne tient pas. Il y a eu un bombardement merveilleux sur Teilhard qui s'est fait dans le Figaro littéraire du temps par Rostand. C'est intéressant, parce que Rostand est quand même un biologiste qui a prôné avec vigueur l'évolution. Et Rostand dit ouvertement, je ne comprends pas Teilhard. Ça doit être un théologien. C'est pour ça que je ne comprends pas. Parce que ce n'est pas scientifique. C'est intéressant d'entendre quelqu'un comme Rostand dire ça. C'est pas scientifique. Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas répété, vous comprenez ? Alors qu'on aurait dû mettre cette page en pleine lumière. C'est pas scientifique. Pourquoi ? Parce que pour un scientifique, l'évolution, c'est le vivant biologique. Pour Teilhard, l'évolution, c'est tout. C'est très simple. Livre Gamma d'Aristote. L'évolution ne regarde qu'une partie du monde réel. Le vivant de vie biologique. N'évolue que le vivant de vie biologique. Pour Teilhard, tout évolue jusqu'à la néosphère. Donc, il dit ouvertement, c'est sans doute un théologien. Justement, c'est la pire injure qu'il pouvait lui faire. Mais c'était bien fait par quelqu'un comme lui. Il faudra traiter une fois la question de l'évolution. C'est important, ceux qui connaissent un peu, ouvrez un chantier sur l'évolution. C'est très important, parce qu'il faut avoir là-dessus un point de vue philosophique, critique, extrêmement net. Et c'est pas commode, parce que justement c'est un domaine qui file entre les mains. Alors, il faut ni être pour, ni être contre, a priori. Il faut essayer de comprendre. Puis en essayant de comprendre, on se pose ensuite la question de savoir où y a-t-il évolution ? Si évolution, il y a. jamais constater l'évolution. Constater l'évolution en acte de venir. On regarde des faits et on regarde d'autres faits. Ça, c'est pas la vie. C'est un regard archéologique. C'est vrai qu'on a constaté des choses extraordinaires au musée de Bruxelles, où il y a quelque chose d'extraordinaire de voir dans le charbon, de voir ces bêtes préhistoriques, de voir leurs petits crânes et leur queue immense et leur corps énorme, parce qu'on aurait dit souvent ça, ces bêtes qui ont existé, parce qu'il y a un témoin. Il y a un témoin, on ne peut pas dire que ça n'a pas existé. Puis, on n'en a plus vu. On les a retrouvés dans de la houille. C'est évident, c'est assez émouvant. Puis alors, il y a l'évolution de l'animal à l'homme, c'est encore un autre problème. Et il y a deux problèmes, l'évolution des vivants, des animaux, et l'évolution de l'animal à l'homme. Et il faut se poser la question toute différente des deux côtés. Bon, on ouvrira un chantier un jour là-dessus. Si j'oublie, vous le rappellerez. Parce que ça vaut la peine. Et puis ça vaut la peine de réveiller toutes vos objections. Au contraire, tous les arguments pour. Ici, je veux dire, et je crois ça très important, que l'appareil dont nous nous servons, microscope électronique, pour saisir certaines choses du vivant, ne saisit plus le vivant comme vivant. Il le saisit comme une réalité particulièrement complexe. Seule l'intériorité me permet de saisir le vivant comme tel. Ça, vous faites appel à l'expérience, c'est tout. Il n'y a pas de preuve de ça. C'est une expérience. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Hein. Si vous n'avez jamais saisi l'intériorité, c'est assez ennuyeux. Alors, regardez-vous dans la glace. Et vous vous regardez d'une façon extérieure. Puis fermez les yeux et regardez-vous intérieurement pour faire votre examen de conscience. Quand vous regardez dans la glace, vous ne faites pas votre examen de conscience. Vous dites, les autres me voient comme ça. Oh, que c'est drôle. Et c'est comme le petit chat. Pour la première fois, un petit chat se regarde dans la glace. Ça vaut la peine de voir ça. Et l'autre lève la patte en même temps. C'est extraordinaire. Ce qu'il est docile. Admirable. Je ne sais pas comment se fait-il qu'au bout d'un certain temps, un chat un peu plus vieux se regarde beaucoup moins. Tu vas avoir un déclic mystérieux. Comment ça se fait ? Ça ne me regarde pas. Parce que la psychologie du chat, vous voyez, elle m'échappe de beaucoup. Mais j'offre complètement. Je ne sais pas comment le chat vit. Je ne sais pas. Ce que je sais, un tout petit peu, c'est comment je vis. Et à partir de là, je le projette sur celui qui me parle. Et si, il doit y avoir quelque chose de commun entre nous. Mais c'est jamais absolument le même. C'est pour ça que je ne peux jamais comprendre parfaitement quelqu'un au niveau psychologique. Au niveau divin, c'est autre chose. Et vous comprenez pourquoi. Je suis identique au Christ. Mon voisin est identique au Christ. Nous sommes identiques au Christ. Et nous nous comprenons pleinement. Toute la différence entre la direction spirituelle, divine, et une direction psychologique. C'est très très important de comprendre ça. on se comprend infiniment plus surnaturellement que psychologiquement. Le jour où vous avez compris ça, c'est beaucoup. Parce qu'alors on commence à comprendre la paternité spirituelle, qui ne fait pas non avec la paternité divine. Bon, je laisse ça, c'est un chantier. Vous voyez, donc, chantier évolution, chantier intériorité. Et les différents degrés d'intériorité. Quelle est l'intériorité psychologique? Quelle est l'intériorité du philosophe par rapport à la philosophie du vivant? Quelle est l'intériorité divine? C'est très beau, ça. C'est très important pour nous. Bon, une fois que j'ai compris qu'il y avait une expérience d'un type tout à fait particulier, l'expérience de ma vie. Ce n'était pas de l'expérience de la vie de l'autre, de ma vie. Je vois tout de suite que mes opérations vitales sont multiples. Bon, pas la peine d'insister là-dessus. Votre examen de conscience philosophique sur toutes vos opérations vitales depuis ce matin. Notez-les. Un jour, faites ça. Toutes. Première opération vitale, je m'éveille. Au son du tambourin. Hein, je suis réveillé. Deuxième opération vitale, je fais un acte d'adoration. Troisième opération vitale, là c'est varié. Quatrième opération vitale, je vais au cœur. Aller au cœur, c'est une opération vitale. Si l'heure avance, j'y vais très vite. Si je suis plutôt d'avance, j'y vais lentement, en me préparant. Puis le cœur, oraison. Puis l'aude, opération vitale. Puis petit déjeuner. Oui, ça en fait pas mal, hein. Et dans toute votre journée, vous en avez pas mal. Ce qui est très curieux, c'est que toutes ces opérations vitales, c'est moi. Ce sont mes opérations vitales. Et je vois le degré de lucidité de toutes ces opérations vitales. S'éveiller, manger, prier, penser. Vous vous êtes réveillé au milieu d'un cauchemar. Parce que le réveil ne tient pas compte si vous avez un cauchemar ou pas. Hein. Automatique, pout. Vous êtes bien oublié. Et un cauchemar, ça ne s'enlève pas tout de suite. Donc l'imagination continue. Vous avez de la peine à faire un acte d'adoration. Parce que le cauchemar est là. Le degré d'intériorité est très différent. Ce qui est sûr, c'est que ce sont toutes mes opérations vitales. C'est moi. C'est moi qui me suis réveillé ce matin. De bonne humeur. On ne peut pas se réveiller autrement. On se réveille toujours de bonne humeur. Se réveiller de mauvaise humeur, c'est la vieille vie, ça tombe avec le vieil homme. Tout ça. On se réveille toujours de bonne humeur, comme c'est merveilleux. Merveilleux d'avoir une journée encore. C'est moi. C'est moi qui vais à la chapelle. C'est moi qui prends mon petit déjeuner. Il y a une unité fondamentale dans toute cette diversité. Alors c'est là où je me pose la question. Vous voyez, on commence à découvrir la connaissance philosophique du vivant que je suis. C'est toujours ça, hein? La connaissance philosophique du vivant que je suis. Ne dites pas la connaissance philosophique du vivant. Non, que je suis. Vous voyez l'aspect concret de la philosophie. Et je m'interroge, qu'est-ce que ça veut dire le vivant? Comment se fait-il que tous ces actes, toutes ces opérations vitales, c'est toujours moi, le c'est moveré, je me Je me lève. Je m'assieds. Je me lève. Je m'assieds. Je vous dirais, je prie. Ah. Pas besoin du me. C'est curieux, ça. Vous êtes jamais demandé pourquoi. Pourquoi vous dites, je me lève et je prie. Pourquoi? Mais le philosophe est attentif au langage. Faut pas l'oublier. Le langage est le premier lieu philosophique. Alors je prie. Et vous dites, ah, c'est un terme bavé du reste, je fais oraison. Hein? Parce que c'est tout à fait juste. Alors vous dites, je fais oraison. Je m'évertue de faire oraison. C'est peut-être plus juste. Je contemple. Et là aussi. Donc, je vois qu'il y a ce « s'émeuverait ». Le vivant, c'est celui qui se meut. Ça se dit couramment, depuis Aristote. Le vivant, c'est celui qui se meut. Attention, il se meut de façon très différente. Je me lève. Allez, lève-toi. Je me lève. Je prie. Quelle différence? Pourquoi, ici, il y a un redoublement? Et là, direct. Je pense. Vous ne direz pas, je me pense. Et alors, le comble, c'est je me prie. Là, c'est le comble. Cette chose très curieuse, hein. Toutes mes opérations vitales, je vois qu'elles sont diverses. Et c'est toutes les miennes. Alors, je veux connaître qu'est-ce que c'est que le vivant. Il est source. Ah, il est source. Il est source. De toutes ces opérations vitales. Mais d'une manière plus ou moins proche. À titre d'hypothèse, sans doute que je prie est plus proche de la source que je me lève. Sans doute. Pourquoi? Parce que le vivant que je suis, il est complexe. Ce vivant, il implique intériorité, extériorité. Alors, quand je suis en face d'un acte beaucoup plus intérieur, je prie. Un acte beaucoup plus extérieur, je suis peut-être obligé de redoubler. Je me lève. Je pose la question, hein. Je m'approche. Parce que c'est quand même curieux que le langage comme ça. Évidemment, vous allez dire, mais quand je dis je mange, je ne dis pas je me mange. Alors, parce que j'aurais pu dire que c'est à cause du corps. Non, je mange, c'est à cause du corps aussi. Je m'endors, tiens. Je m'endors. Je me réveille. Hein, cherchez un petit peu ça. Donc, je veux savoir qu'est-ce que c'est que ce vivant, qui est moi. Pour savoir ce qu'est ce vivant, je me pose la question. Qu'est-il? Toujours. Je veux savoir son principe, sa source. Je vois que toute opération vitale est intérieure, donc la source est intérieure. Mais toute opération vitale, telle que je les vis ici, dans leur exercice, ne peuvent pas se séparer du corps. Donc toute opération vitale est complexe. Elle est intérieure et extérieure. Toutes. Complexité, diversité, c'est pas commode, hein. Le principe est intérieur. Puis-je saisir, dans une attitude réflexive, cette source intérieure? Est-ce que je m'aime? Est-ce que j'ai pour moi un amour de ce que je suis? M'aimer. Je m'aime. Dans mon intériorité. Les traditions religieuses parlent d'une âme, source de toute mon intériorité. Les traditions religieuses. En tant que philosophe, je serais attentif à ça. Les traditions religieuses parlent de ce dualisme âme et corps. Tiens, je vois que toute opération vitale est complexe, implique intériorité, extériorité. L'âme source intériorité, le corps extériorise. Oui, je crois que c'est très important, quand il y a la phase du langage, de faire tout de suite appel aux traditions religieuses. Je vois que pour moi, je suis dans une situation difficile aujourd'hui, parce que ces traditions religieuses n'ont plus cours. Mais j'y reviendrai, parce que c'est important. Mais je peux très bien dire, c'est dommage que ces traditions religieuses n'ont plus cours, parce que le mot « âme » est lié à ces traditions religieuses. Le mot « âme », ce n'est pas les philosophes qui l'ont inventé. C'est ni la philosophie platonicienne, ni la philosophie aristotélicienne, ni saint Thomas. Ça va peut-être farouche là-dessus, hein. Quand on vous dit, quand vous parlez de l'âme, vous dites « Ah, vous êtes Thomiste !» Pas du tout, pas du tout. C'est pas saint Thomas qui a inventé l'âme. Le mot « âme ». Le terme « âme » provient de traditions religieuses, dans l'Inde. Si on vous traite de Thomiste, dites que vous êtes avec l'Inde. Alors vous vous posez la question au plan philosophique. Est-ce que cette dualité âme et corps est une dualité mythique ou réelle? Est-ce que l'âme, telle qu'elle est indiquée dans les traditions religieuses, c'est une réalité mythique? Ou est-ce que c'est une réalité que mon intelligence peut découvrir? Vous voyez, ça me pose un problème, ça. Ça me pose un problème de façon très aiguë. Philosophe, même vivant aujourd'hui, doit se poser le problème. Les traditions religieuses les plus ancestrales, les plus profondes, les plus intéressantes, ont posé le problème du dualisme, ont posé le problème de l'âme. Alors, est-ce que c'est mythique ou est-ce que c'est réel? Puis je vois que des grands philosophes ont parlé de l'âme et du corps. Tous les philosophes grecs à partir de Platon. Pratiquement tous les philosophes grecs à partir de Platon. Le néoplatonisme. L'aristotélisme. Donc, quand l'aristotélisme et le néoplatonisme affirment les mêmes choses, c'est assez impressionnant. Il y a des chances qu'on touche là quelque chose de profond. Or, l'aristotélisme et le néoplatonisme affirment la distinction de l'âme et du corps. D'une façon différente, nous y reviendrons, mais l'affirme. Et je vois que chez les modernes, jusqu'à Bergson, Bergson affirme constamment l'âme. Ça ne le gêne absolument pas. Ce sont les modernes. Les modernes n'aiment pas qu'on affirme l'âme. Deux, trois ans, je me souviens, le groupe Résurrection de Montmartre m'avait invité très gentiment à venir parler sur l'âme. Parce qu'ils avaient le désir d'essayer de montrer, de façon qu'il soit compréhensible aux gens, ce que représentait l'avortement. J'ai essayé de leur présenter ce que c'était que l'âme. Alors, la grosse objection était toujours ceci. Mais mon père, l'âme, plus personne ne sait ce que ça veut dire. J'ai répondu, les intellectuels ne savent plus ce que ça veut dire. Mais les braves gens savent très bien. Alors là, je l'ai coincé. Les intellectuels ne savent plus, ils ne veulent plus parler de l'âme. Mais les braves gens savent très bien ce que c'est que l'âme. n'avez qu'à faire l'expérience. C'est les intellectuels, il y a un a priori, et je dis bien, il y a un a priori, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit, du jour au lendemain, de dire, ah, on ne parle plus de l'âme. Les intellectuels d'aujourd'hui ne veulent plus parler de l'âme. Pourquoi ? Quel est le premier qui a supprimé la distinction de l'âme et du corps ? C'est Merleau-Ponty, pour la France. C'est tout l'aspect de la féminologie. Merleau-Ponty a joué un rôle très important là-dessus. Et on peut dire que Husserl, pour lui, on ne parle plus de l'âme et du corps. Je crois bien. Pour Merleau-Ponty, j'en suis sûr. À ce point que quand j'étais à Fribourg, je venais de temps en temps faire des petits cours à certains qui m'avaient demandé à Lausanne. Et pratiquement le professeur de philosophie de l'université venait. C'était des cours sur Aristote. Et comme j'avais dit au point de départ que les premiers calvinistes étaient aristotéliciens, donc que je ne venais pas du tout en tant que catholique, je venais en tant que philosophe. Et que si les protestants calvinistes de Lausanne étaient de vrais calvinistes, ils devraient tous être aristotéliciens. Ça, ils m'ont regardé avec de drôles de yeux. Mais ils étaient bien obligés. Parce qu'il y a Morges, sur le lac de Lausanne, sur le lac de Genève, il y a Morges, un réformé calviniste, qui était un fervent disciple d'Aristote, qui a écrit un livre sur le De Anima, commentaire, Pacius. Vous avez tous lu Pacius en regardant le De Anima d'Aristote. Hein. Alors régulièrement, avec quelques protestants, j'allais tous les ans boire à la santé de Pacius à Morges. On prenait un bon petit vin vaudois. Pacius, venez, c'est très important de se rappeler ça. Que les premiers calvinistes étaient aristotéliciens et thomistes. Et farouchement thomistes, comme ils pouvaient l'être, puisqu'ils sont farouchement pour tout. Donc il était farouchement thomiste et farouchement aristotélicien. Alors, ce professeur, qui était délicieux, un jour me dit, mais tous mes étudiants refusent la distinction de l'âme et du corps. C'est gros. Alors il m'a dit, je ne peux pas vous inviter à l'université. C'était avant le concile. Hein. Je ne peux pas vous inviter à l'université. Je ne peux pas. Parce qu'on ne peut pas inviter un professeur de Fribourg à l'université de Lausanne. Ce serait un papiste qui viendra enseigner des réformés. Donc c'est impossible. Mais je vous invite chez moi. J'inviterai tout mon séminaire. C'est-à-dire ceux qui travaillent le mieux. C'était 20. Je vous demanderai de leur exposer la distinction d'âme et du corps. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec Merleau-Ponty ? C'était palpitant, c'est très intéressant. Alors tout d'un coup, dans la conversation, en parlant, je n'ai pas attaqué tout de suite le problème. Hein. J'ai attaqué d'abord qu'est-ce que c'est que la philosophie, qu'est-ce que c'est que l'homme. Puis tout d'un coup, en parlant comme ça, je dis l'âme. Je vois juste en face de moi une étudiante que j'ai su après fille de Pasteur. Il y en a qui sourit. Quand on n'est pas nombreux, on remarque tout devant en parlant. Je dis, tiens, je m'arrête. Je dis, vous souriez. Alors elle me dit, oui, je souris, c'est bien, vous souriez. Vous n'êtes pas d'accord, hein ? L'âme, pour vous, ça ne signifie rien. Oui, la distinction de l'âme et du corps, pour vous, vieille distinction thomiste, hein, hein ? C'est bien ça. Il ne faut plus en parler. Donc vous refusez la distinction de l'âme et du corps. Elle est bien obligée de dire oui, puisqu'elle souriait. Je lui dis, est-ce que pour vous, il y a une distinction entre faire de la philosophie ou dormir ? Elle n'a pas osé me répondre. C'est éloquent. À minuit, je n'ai pas assisté, vous comprenez, parce qu'elle elle rougissait, donc il fallait mieux arrêter. À minuit, est arrivé le thé, les petits biscuits. Immédiatement, la discussion philosophique est dégringolée de 4 degrés. Devant. Alors, je me retourne vers elle. Je dis, vous avez remarqué que depuis que les petits biscuits et le thé excellent qui nous a été versé, la philosophie, discussion tombée. Est-ce que c'est la même chose de boire du thé ou faire de la philosophie? Elle n'a pas su répondre. Elle n'a pas osé répondre. Elle dit, vous voyez, ça vous mène loin de refuser les distinctions de l'âme et du corps. Confondre philosophie et dormir, philosophie et boire du thé. Moi, je dis carrément que ce n'est pas la même chose. Pourquoi vous n'osez pas dire que c'est la même chose? C'est pas la même chose. Parce que vous savez très bien qu'en disant ça, vous êtes obligé de reconnaître qu'il y a une complexité en nous. Et que cette complexité est commandée par un principe immédiat et un second principe. Que nous ne sommes pas des êtres simples. Nous sommes des êtres complexes. Et vous serez obligé d'accepter qu'un de ces principes, c'est ce que les traditions religieuses appellent âme, l'Inde. Et que le corps, c'est l'autre co-principe. Alors, à ce moment-là, elle dit, mais on ne nous a jamais dit ça. Pauvre professeur était là. On ne nous a jamais dit ça. Je dis, oui, mais c'est ça la vérité, que voulez-vous? C'est que l'âme n'est pas un mot philosophique. Ah, mais si on nous avait dit ça, ah, mais j'accepte les traditions religieuses. Ah, bah, c'est bien. Alors, ces traditions religieuses, sont-elles un mythe? Sont-elles une réalité? Oui, on reprend le problème d'une façon toute différente. Parce que ça pose un problème, philosophiquement, ça. Autrement, vous le posez en fonction d'opinion, en fonction de tradition philosophique. C'est plus le réel. Vous ne touchez plus le réel, vous regardez les opinions. Tel philosophe a accepté la distinction de l'âme et du corps, l'autre n'a pas accepté. En Grèce, les stoïciens n'ont pas accepté la distinction de l'âme et du corps. Les stoïciens. Et Breyer dit, à ce moment-là, la philosophie grecque est rentrée dans la tradition grecque. Parce que la distinction de l'âme et du corps n'est pas une distinction de la tradition philosophique grecque. Ça, il faut écrire ça en lettres d'or, aujourd'hui. Pour bien montrer que la distinction de l'âme et du corps provient de traditions religieuses et de l'Inde. Tout le monde reconnaît ça aujourd'hui. Pour Platon. Platon a été fortement influencé par l'Inde. On ne sait pas exactement comment, mais on est sûr. Et c'est par l'Inde que la distinction de l'âme et du corps a pénétré la philosophie. Alors je me pose la question, vous voyez, loyalement, en face de ces traditions qui distinguent l'âme et du corps, est-ce que je suis en face d'un mythe? Pour cela, je reviens à l'expérience. À la diversité de mes opérations. Je dors, je fais de la philosophie. Je bois du thé et d'excellents biscuits. Exercice pratique pour la philosophie. Et je philosophe. Je fais de la philosophie, je pense. Comment comprendre cette diversité en moi? C'est toujours moi. Il y a donc, à travers cette diversité si complexe, si diverse, il y a donc une source, une, qui permet de dire que c'est moi. Autrement, je ne pourrais pas. Vous voyez comment j'induis l'âme? L'induction, c'est découvrir une source cachée. À partir de la diversité des expériences, ces expériences impliquent un ordre, donc impliquent une certaine unité. Cette diversité impliquant une unité ne fait, et ceci dans l'ordre de l'exister. Le jour d'existence. Cette diversité impliquant une unité n'explique pas sa propre unité. Il faut donc qu'il y ait un principe extérieur à la diversité qui implique l'unité et qui implique l'ordre. Et ce principe, c'est cette source qui explique l'unité dans la diversité. Vous voyez, comment j'induis ? Induire, c'est tendre l'arc pour dépasser ce que je peux saisir immédiatement et qui ne me contente pas. Je peux décrire cette diversité des opérations. Je peux montrer leur unité, une certaine unité. Je peux montrer leur ordre. Mais est-ce que je peux vraiment montrer leur ordre tant que je n'ai pas saisi la source ? Est-ce que c'est mieux, c'est plus humain de dormir ou faire la philosophie ? Hein ? Est-ce que c'est plus humain d'aimer ou de philosopher ? Est-ce que c'est plus humain de travailler le poids ? D'avoir une action politique. Vous voyez, je vois un ordre, je soupçonne un ordre, je vois dans cette diversité quelque chose qui est un, tout ça est de moi. Il y a donc une source cachée. Cette source cachée, c'est ce que les traditions religieuses appellent l'âme. Source de mon unité à travers ma diversité. Et le corps est source de la diversité. Ou plus exactement, le corps manifeste la diversité. Si avec l'âme, d'où viendrait la diversité ? L'âme n'est pas source de diversité, elle est source d'unité. L'âme comme telle, elle fait l'unité en moi. Et cette diversité, elle provient de mon corps. Je ne vois pas encore très bien comment. Hein. Mais voyez comment les traditions religieuses m'obligent de me poser ce problème et d'induire. Et je dirais pas seulement les traditions religieuses, mais Bergson, tout près de moi. Et les philosophes qui acceptent la distinction de l'âme et du corps. Je vous dis, jusque Bergson, ils l'ont tous accepté. Il a fallu la phénoménologie, il a fallu Merleau-Ponty pour dire non, pas de distinction entre l'âme et le corps. Pourquoi ? Parce qu'ils ne regardent que la conscience. Tout est dans la réflexion de la conscience que j'ai de mes opérations. Or, il est bien évident que je n'ai pas conscience immédiate de l'âme. Vous n'avez jamais vu votre âme se balader. Jamais, sauf en rêve. En rêve, ça peut arriver. Oh, c'est merveilleux, mon corps reste là étendu, il continue de dormir. Mais mon âme, elle s'en va en Chine. Mon âme, elle va auprès du Seigneur. C'est merveilleux. Des voyages gratis. Mon âme quitte le corps. Certains moments, j'ai l'impression que vraiment, je suis un être complètement aérien. Imaginativement, vous pouvez très bien arriver à saisir ça et vivre de cette séparation. Si vous êtes éveillé, que vous en vivez, ça peut devenir un peu dangereux. Hein ? Ça peut devenir un peu dangereux. On se divise en deux. Je vous laisse mon corps. Et mon âme s'en va. voyez, que au niveau de la conscience, je n'ai pas conscience de la dualité de l'âme et du corps. Si ce n'est dans la diversité de mes opérations. Mais qui ne me dit pas l'âme et le corps. Il faut donc induire pour saisir une source d'unité, expliquer. Évidemment, si je n'explique pas, je ne saisirai jamais l'âme. Vous voyez, c'est l'intelligence qui veut connaître ce qu'est l'opération vitale. Quelle est la source de l'opération vitale? Et pour saisir la source de l'opération vitale, elle dit qu'il y a nécessairement, au-delà de la diversité de ces opérations, une source unique, immanente, qu'on appelle l'âme.